Notre adolescent désire un iPhone alors que toute la famille est sur Android. Stéphane Corr, vous êtes spécialiste des questions numériques et formateur. Est-ce que les deux écosystèmes sont compatibles ?
Alors, pas tant que ça, parce que finalement, y a une asymétrie dans ces écosystèmes. Apple et Google ne conservent pas leurs outils de contrôle pour se parler. Ils sont, bien sûr, dans des approches qui sont différentes. Et donc, ce qui fonctionne très bien sur Android ne fonctionnera pas forcément très bien sur un iPhone, même si l'application peut être installée. Une application, par exemple, comme Google Family, qui est faite pour Android, ne va pas forcément s'installer nativement avec toutes ses fonctionnalités sur un iPhone. Mais d'un autre côté, un iPhone a aussi son propre écosystème de contrôle, de vérification du temps d'écran et de l'utilisation du périphérique.
Mais la vraie question qu'on se pose, c'est que faut-il faire à la place des parents ? Est-ce qu'on oblige son enfant à se mettre sur Android ou est-ce qu'on accepte l'iPhone et tous les inconvénients qui vont avec ?
Alors, c'est une discussion. Voilà. On doit essayer de voir avec son enfant pourquoi est-ce qu'il veut un iPhone ? Est-ce qu'il veut un iPhone parce que simplement ses potes ont un iPhone ?
Ce qui est souvent le cas.
Voilà, ce qui est souvent le cas. Ou est-ce qu'il y a des raisons fondées pour son choix, qui définissent son choix ? Donc voilà, je crois qu'il y a une discussion à avoir au sein de l'espace familiale, de voir les pour et les contre, mais attention aussi, ce n'est pas la fonction de contrôle parental qui doit réguler le choix final du périphérique non plus.
Et pourtant, les parents se doivent de contrôler les temps d'écran et ce genre de choses, non ?
Les parents se doivent de superviser l'utilisation des périphériques qui sont somme toute complexes. Je le rappelle aussi que l'idéal, quand l'enfant n'a pas encore un smartphone dans les mains, c'est de lui faire écrire un peu une sorte de charte qui va définir un peu les usages qu'il prévoit de faire de l'outil et la manière dont il comprend. Parce que il faut comprendre non seulement l'outil lui-même, son fonctionnement, le traitement des données, la sécurité. Et après, dans les usages, pour le parent, il faut créer des rendez-vous avec lesquels, dans lesquels on va discuter avec l'enfant de son usage. Donc l'outil ne remplace pas la conversation, le contrôle technique donne une impression parfois de fausse sécurité. Puis surtout sur le temps d'écran, récemment, nos amis français, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, a bousculé la croyance que le temps d'écran est une donnée suffisamment fiable parce que justement, ça ne permet pas de contrôler les conséquences nocives de consommation numérique chez les enfants. Et ce que préconise ce rapport, c'est plutôt de mesurer le nombre de déverrouillages qui peut témoigner d'un effet d'hypervigilance ou encore le basculement incessant d'une application à une autre. Donc voilà, mais revenir en fait en disant le temps d'écran, il est composé d'une multitude d'activités qui peuvent être pédagogiques, informatives, qui peuvent être ludiques ou simplement du scrolling. Et donc il faut évaluer quel est ce temps. Puis au final, il faut faire prendre conscience à l'enfant de l'importance de maîtriser cet outil et son temps pour ne pas qu'il soit maîtrisé par la technologie, en essayant d'évaluer avec lui est-ce que, par exemple, quand il a des rendez-vous, est-ce qu'il arrive à se dégager de son smartphone ? Est-ce qu'il arrive à prendre conscience que c'est le moment de se rendre à ce rendez-vous ? Et c'est sur ces points-là qu'il faut être extrêmement vigilant pour lui faire prendre conscience que, par exemple, son usage du smartphone ne doit pas déborder sur des activités qu'il avait prévu de faire et au détriment de celle-ci.